René Lavergne avec vous. Je vous emmène dans le monde de la science et de la recherche avec un retour d'expérience sur le Challenge Experium 2020 qui a eu lieu le 12 mars après une période de doute sur sa tenue et juste avant la fermeture des établissements scolaires et universitaires. 6 lycées de la région des Hauts-de-France s'étaient mobilisés. Le lycée Vauban d'Aire-sur-la-Lys, le lycée Edgar Morin de Douai, le lycée Duplex de Landrecy, le lycée Pierre Forêt de Maubeuge, le lycée Arthur Rimbaud de Saint-Lenoble et le lycée de Lescaut de Valenciennes. Au total, 40 lycéens, accompagnés de 30 étudiants de l'Université de Lille, engagés, créatifs, inventifs, pour réfléchir ensemble autour du thème de la saison actuelle d'Experium, matériaux et numériques en mutation vers l'homme augmenté. 10 équipes ont été constituées pour travailler sur 5 thématiques vers un territoire plus intelligent et plus inclusif, impact de nouvelles solutions numériques sur l'économie circulaire, énergie et objets connectés, sport et objets connectés, la biodiversité, le tissu vivant de notre planète. Je vous propose de revivre cette journée de travail et de réflexion au travers des interviews que j'ai réalisées des groupes en compétition.
On fait des phrases avec les post-it qu'on a là, mm-hmm. afin d'établir des solutions, des idées à avoir, mais en phrases. Des idées à creuser, mais en phrases.
Sur ça. Donc là, vraiment, vous pouvez même faire des schémas simples, si c'est plus clair pour vous à expliquer. Et l'idée, c'est qu'il y a à chaque fois une grosse idée que vous développez un peu plus, mais uniquement sur cette surface-là, donc il ne faut pas non plus aller trop dans les détails. Et en fait, c'est individuel. Donc s'il y en a plusieurs, vous pouvez en faire plusieurs. Et au fur et à mesure, pareil, on va aller coller. Et pareil, il y aura une autre phase collective où on va tout regrouper, voir ce qui se recoupe, pour pouvoir après voir quelle piste émerge et laquelle on suit plus précisément.
Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes ?
Je m'appelle Marie Moret et je suis conseillère pédagogique au sein de la direction de l'innovation pédagogique au CAP, à l'Université de Lille.
Donc aujourd'hui, c'est une journée de travail, on va dire ça comme ça ?
Oui, c'est une journée de travail un peu particulière avec des lycéens et des étudiants pour explorer en fait de la créativité au service d'une problématique posée autour de l'énergie et des objets connectés.
Donc dans cette journée d'études, on va dire de travail et de proposition, il y a un grand thème commun ?
Oui, alors, enfin, il y a plusieurs thèmes. Nous, notre thème, c'est l'énergie, les objets connectés. On travaille sur un sujet pragmatique, donc il faut qu'il soit réalisable à court ou moyen terme, sur les systèmes de pilotage de la recharge avec des objets connectés, précisément. En fait.
Donc, en termes de méthodologie, je crois que vous travaillez un petit peu avec les idées que vous proposez, puis après, voilà, vous les mettez en pratique.
D'abord, on a eu plusieurs phases. On a d'abord eu une phase où on nous a un peu présenté tout ce qu'on pouvait faire pour améliorer l'humain ou tout ce qui est connecté. Et ensuite, on nous a apporté un sujet. Et sur ce sujet, on a commencé à réunir beaucoup d'idées. On nous a présenté le principe de divergence-convergence. Et d'abord, on a réuni beaucoup d'idées. Ensuite, on a essayé de reconstruire quelque chose. Ensuite, on viendra apporter beaucoup d'idées. Bon, on n'oublie pas la pause déjeuner. Hein. Et ensuite, là, on va commencer à reconverger nos idées et à pouvoir faire les gros titres pour notre pitch final, parce que ce sera ça, à la fin qu'on présentera, ce sera un diapo et un pitch qui sera important.
Donc là, vous êtes une équipe, est-ce que c'est déjà structuré ? On sait déjà qui va faire le pitch final ?
Pour l'instant, pas du tout. On n'est pas encore là. Ce sera la prochaine phase, je crois, après.
Donc au niveau des idées, vous avez déjà beaucoup travaillé depuis ce matin. Comment on peut présenter un petit peu sur quoi vous avez réfléchi déjà ?
Alors, on a commencé à réfléchir sur les problèmes de la voiture électrique, c'est qu'il faut la recharger. Et les problèmes de recharger quand on est dans un voisinage, c'est que tout le monde rentre à la même heure et tout le monde recharge sa voiture à la même heure. Et le problème, c'est qu'on a un pic de consommation et il y a des fois, il n'y a pas assez d'électricité pour pouvoir recharger toutes les voitures. Donc nous, notre but, ça va être de penser des bornes qui vont être connectées avec les différentes voitures. Pour recharger les voitures à un rythme différent, s'il faut toutes les recharger à 100%. Et aussi se demander si c'est utile de les recharger tous les soirs à 100%, en fonction des habitudes de trajet du coup, de chaque personne, adapter la recharge de la voiture. Donc au lieu d'avoir une voiture chargée à 100%, une voiture chargée à 70%, ça peut être suffisant. Et comme ça, en fait, on perd moins d'électricité, on consomme moins d'électricité, on fait tourner moins de centrales nucléaires ou de centrales thermiques et on pollue moins.
Donc les idées que vous avez, vous allez les exprimer. Est-ce que vous pensez qu'elles peuvent être retenues par des scientifiques ou des gens qui vont travailler dans des labos pour réaliser l'énergie de demain et comment s'en servir ?
On se pose comme scientifique. Là, notre but, c'est d'être dans une démarche scientifique. Ensuite, on échange avec des personnels ressources qui avaient l'air plutôt intéressés par nos idées. Et on peut voir que nos idées se sont déjà produites dans d'autres domaines. On en parlait avec un des personnels ressources, c'est par exemple les câbles de téléphone. Au départ, chaque fabricant avait son embout de câbles de téléphone. Et quand on rachetait un téléphone, fallait racheter un câble, alors qu'on a réussi à harmoniser tout ça. Et maintenant, quand on achète un nouveau téléphone, on n'a plus besoin de jeter le câble, parce que le câble s'adapte au nouveau téléphone. Et on voudrait faire un peu comme ça avec les bandes de voitures aussi, parce qu'actuellement, il y a différents embouts avec différentes énergies, enfin, différentes quantités d'énergie qui sont transmises, et on voudrait aussi des bornes qui soient universelles, entre guillemets, qui puissent délivrer différentes quantités d'énergie en fonction de la voiture, par reconnaissance de la voiture, avec notre borne connectée, en fait.
Voilà, donc des systèmes qui soient complètement compatibles, adaptés à n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel lieu géographique du territoire.
Oui, ça c'est à travailler avec les personnes qui travaillent dans l'industrie automobile. Pardon. Et ce qu'on essaye surtout d'améliorer, c'est la consommation d'énergie, la réduire au maximum, tout en gardant une certaine marge de manœuvre pour avoir une qualité de vie suffisante, entre guillemets, pour pouvoir pallier à tout imprévu, par exemple si notre grand-mère est à l'hôpital, pouvoir aller la voir et pas être trop juste en fait niveau batterie. Donc il y a tout un équilibre à trouver et aussi une planification à avoir qui nous permettrait de moins consommer d'énergie et d'être more eco-friendly. C'est notre prof de ro qui nous a emmenés, donc on fait un peu d'anglais. C'est chercher des solutions aux problèmes d'aujourd'hui, mais surtout de demain.
Donc vous allez chercher des solutions, j'ai bien compris. Et est-ce que, en majorité, vous êtes jeune, hein, est-ce que vous êtes prêt à changer vos pratiques, par exemple, ou faire changer les pratiques de vos parents ?
Ce serait une bonne idée de faire changer les pratiques des parents si elles polluent trop, par exemple. Il faut savoir que ça va forcément changer notre mode de vie. Donc il faut pouvoir s'habituer facilement et rapidement à cause de toutes les conséquences que pourrait avoir le réchauffement climatique, par exemple.
De toute façon, il va bien falloir que ça change.
Oui, effectivement.
Voilà, donc vous êtes prêt à faire des propositions et des concessions.
Je pense que c'est de toute façon nécessaire.
Merci beaucoup.
Bonjour.
Voilà, donc vous travaillez collectivement, hein, vous êtes une équipe de, on va dire, 6 autour d'un thème, un thème sérieux.
C'est ça. Nous, on travaille donc sur l'impact des nouvelles solutions numériques sur l'économie circulaire. En gros, nous, on incarne une start-up qui a pour but, dans les nouvelles technologies et dans l'intelligence artificielle, de trouver une solution pour améliorer la qualité du tri, et notamment sur les tris des produits ménagers et des déchets ménagers. Voilà, en gros, c'est ça l'idée.
Donc en fait, le tri, enfin les déchets, c'est la fin d'une chaîne, mais ça peut être aussi le début d'une autre chaîne.
C'est ça, c'est le but du tri. On a la citation, c'est quoi la citation ? De Lavoisier qui dit « Rien ne se perd, tout se transforme ». C'est le but de réutiliser les produits C'est le truc, quoi.
Qu'est-ce que vous avez évoqué alors déjà à ce point d'étape de votre travail ?
On a parlé d'énormément de choses. Donc tout d'abord, on a dû définir ce que c'est l'intelligence artificielle. Quels sont les robots qui pourraient être justement utilisés au tri des déchets ? À partir de quel moment on va jouer sur l'intelligence artificielle, donc c'est-à-dire pour le tri des déchets au niveau des ménages, c'est-à-dire qu'on pourrait par exemple donner une intelligence artificielle, une poubelle intelligente par exemple, pour les ménages. Après, on s'est dit que finalement, pour les ménages, ça ne serait pas la meilleure des idées, et peut-être à la limite une sensibilisation, mais qui est déjà en tout cours, etc. Donc la sensibilisation, justement, elle est déjà faite. Donc on s'est dit, le mieux, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle, justement, à l'intérieur des stations ou des sites de tri des déchets. Donc comme on a pu le voir dans une vidéo sur Internet, on a vu qu'à la sortie des stations de tri des déchets, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites et il y a encore des déchets qui sont mal triés. Donc on aimerait bien sûr, et on projette d'inventer une intelligence artificielle, un robot donc, qui pourrait, suite à tous les tri des déchets qui sont faits auparavant, vérifier ce tri et à la limite corriger les erreurs des machines qui se sont trompées auparavant.
Voilà, donc on parle de recyclage des objets, hein, et les hommes dans tout ça, on les recycle ou pas ?
Oui, bah, ils seraient redirigés vers la maintenance des machines où on gratifierait leur travail, on améliorerait leurs compétences, où ils seront à la tête des machines, où ils vérifieront les machines si ils fonctionnent, essayer de toujours aller vers le haut.
Et est-ce qu'on peut les payer davantage, c'est pensé, ça ?
On ne s'est pas posé la question.
Non, valoriser la rentabilité d'une certaine manière, puisqu'ils y contribueraient.
Oui, c'est vrai. Mais après, les machines, pour avoir les intelligences artificielles, ça coûte déjà très cher. Donc le temps que ça se mette en place, peut-être dans 10 ans, ils verront une augmentation de leur salaire. Je sais pas.
Quel est le plus gros point, enfin la plus grosse difficulté que vous imaginez dans ce traitement et de cette façon de traiter avec de l'intelligence artificielle ?
Ça entraîne beaucoup d'enjeux en fait, la robotisation du traitement des déchets, parce que en fait le truc, l'idée c'est d'essayer de moins consommer aussi, de réduire les coûts, et d'être efficace, et lier tout ça à la fois, c'est pas forcément évident. Et c'est, en fait, c'est justement le problème, c'est le cœur du problème en fait. Parce qu'on veut améliorer le tri des déchets, mais tout se tourne vers la robotisation, sauf que ça a certains coûts. Et du coup, ça prend énormément de temps avant de se mettre en place, puisqu'on a regardé tout à l'heure, par exemple, des entreprises qui mettent au point des logiciels d'intelligence artificielle, c'est entre 25 000 et 100 000 euros. C'est un énorme financement. C'est pour ça que ça, c'est un projet qui, vraiment, c'est sur le long terme. On ne peut pas se lancer comme ça dedans sans prendre tous les facteurs, tous les enjeux.
Est-ce que le système que vous inventez ou que vous allez proposer, il serait transposable partout dans le monde, ou c'est très localisé comme approche ?
Je pense que d'abord ça va être localisé avant d'avoir une approche un peu plus mondiale. Mais oui, c'est ce à quoi on projette. Enfin, moi personnellement, je trouve que c'est un projet qui peut facilement se mondialiser, parce que si ça se met au point, ça sera quelque chose de vraiment très pratique, plus efficace et optimal. Parce qu'on aura une intelligence artificielle aux côtés d'un humain quand même. Parce qu'on n'est pas là pour supprimer l'homme quand même. Aux côtés d'un humain, parce que l'homme, il va apprendre à la machine à reconnaître les déchets, à bien les trier pour supprimer complètement l'erreur. Et par derrière aussi, ça va lui permettre d'acquérir d'autres compétences. Et s'il a un problème sur la machine ou quoi que ce soit, il sera capable de trouver une solution et de régler le problème.
Bon travaux. Hein.
Merci, merci.
Et c'est quoi l'idée pour vous, hein, qui vous anime le plus dans l'ensemble de ce qui a été imaginé déjà ?
Moi, déjà, ce que je vois en fait, c'est le fait de toujours chercher en fait à améliorer nos conditions de vie, et ce qui inclut bien sûr, l'environnement, dans le sens où on réduira la pollution. Si possible, plus que dans le sujet, il nous est demandé de trouver une solution de telle sorte à ce que ça augmente l'insertion professionnelle. Donc je me dis, du côté environnemental et insertion professionnelle, ça réduira aussi le chômage.
Alors là, quand on dit qu'on va mettre beaucoup d'argent dans des machines et dans de l'intelligence artificielle, que deviendront les hommes dans ce fonctionnement? Alors on l'a un peu évoqué, l'hypertechnicité des personnes qui travaillent, mais ceux qui travaillent actuellement et qui n'ont pas de connaissances, de compétences, comment on va les adapter à d'autres métiers ou comment ils vont gagner leur vie en fait?
L'objectif en fait de tout ça, c'est de trouver des solutions, aussi bien en employant l'intelligence artificielle sans pour autant mettre à part l'apport de l'homme. Si vous voyez. Par exemple, nous, notre idée, c'est de trouver des solutions tout en revalorisant en fait le travail de l'apport humain. On imagine que tout ne sera pas parfaitement trié, donc le reste du travail sera fait par l'homme. On prévoit en fait de réaffecter en fait ce travail à une machine de telle sorte que on puisse peut-être apprendre à ce dernier qui était au niveau de la finalisation des tris la maintenance de cette machine. On se dit qu'en ce moment ça augmente en fait, il aura forcément des compétences en plus et on espère qu'au niveau de la rémunération ça sera aussi pris en compte. Voilà.
On verra. Hein.
On verra, on espère, c'est notre but. Merci à vous aussi.
Voilà, donc cet atelier réfléchit et travaille sur comment mieux intégrer les personnes handicapées à la vie collective d'une certaine manière et comment on améliore peut-être aussi les espaces, donc quel que soit l'espace, comment on peut l'améliorer pour le rendre praticable par le plus grand nombre, c'est ça l'idée?
Oui, effectivement, c'est ça l'idée. Donc aujourd'hui, les pistes sur lesquelles nous sommes basés, c'est de rendre notre environnement interactif, faire en sorte que nos handicaps ne soient pas des défauts ou des raisons qu'on nous exclut, mais puisqu'elles font partie de nous, qu'elles vivent avec nous, que tout le monde l'accepte et qu'on vive aussi bien que les gens qui sont normaux.
Donc, est-ce que vous avez des personnes auxquelles vous pensez et vous vous dites, ben, cette personne-là, je la connais bien et j'imagine que dans tel lieu ou dans telle circonstance, elle aurait vraiment des difficultés?
Non, je ne connais pas particulièrement de personnes, mais on en voit tous les jours, on en croise tous les jours, que ce soit dans le métro, ou quand on prend le bus, ou à côté de chez soi, ou quand on va faire les courses et tout. Et on ne peut pas s'empêcher de remarquer, par exemple, que dans le métro, les non-voyants et tout, ils ne rentrent pas parce que c'est à cause du sang. Par exemple, quand les portes elles se ferment, ils ne savent pas quand est-ce qu'elles se ferment ou quand est-ce qu'elles s'ouvrent. Et c'est pareil, par exemple, pour les feux. Ils ne savent pas si c'est le feu vert ou si c'est le feu rouge, du coup ils ne savent pas quand est-ce qu'ils doivent traverser. Et c'est tout ça qui fait qu'on devrait changer, qu'on devrait apporter des modifications dans notre environnement et dans la vie de tous les jours.
Donc dans cette étape de réflexion, hein, puisque vous allez encore travailler un petit moment sur le sujet, est-ce qu'il y a une idée qui est vraiment majeure et auquel vous n'auriez pas pensé avant de démarrer et qui vous paraît déjà prendre forme, qui paraît importante déjà à défendre et à développer bien sûr?
L'histoire de du badge pour la personne qui est handicapée, enfin, c'est quelque chose dont je n'avais pas pensé ou qui pourrait être super pour directement adapter le territoire, le chemin du logement vers le territoire où ils veulent.
Est-ce que vous avez des idées de lieux qui sont vraiment difficiles, complexes pour une personne qui aurait un souci, une personne handicapée? Est-ce que vous pensez près de chez vous, par exemple, ou quand vous traversez la ville, à un lieu qui vous paraît déjà de grandes difficultés?
Par exemple, à l'université, dans les amphithéâtres, si par exemple il y a quelqu'un qui arrive avec un fauteuil roulant, en fait, il est systématiquement obligé d'être devant, en fait. Il ne peut pas, par exemple, être au même endroit que nous, au milieu de l'amphi ou même dans le fond, sauf s'il y a un ascenseur, mais souvent, moi je connais un camarade qui était avec moi l'année dernière, il était systématiquement obligé d'être tout devant en fait, donc c'est pas non plus top.
Alors, on retrouve ces problèmes dans les lieux d'éducation, j'imagine aussi peut-être dans les lieux de travail. Peut-être qu'on pourrait voir comment les entreprises peuvent s'adapter. Puis il y a aussi les lieux de spectacle. Je pense par exemple, pas très loin d'ici, à La Rosévent, où beaucoup de personnes handicapées sont placées devant pour pouvoir apprécier le spectacle. Pour vous, est-ce que c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée ?
Moi, je pense que notre projet ici, c'est vraiment de favoriser l'attraction des personnes à handicap dans notre vie au quotidien. Parce que, par exemple, peut-être que la personne avec handicap ne veut pas être devant, elle veut être avec ses amis derrière. Bah, à cause de son handicap, elle est obligée de suivre le spectacle toute seule, devant. Ça, c'est... Des fois, quand on va au cinéma ou dans ces spectacles-là, c'est vraiment pour des moments conviviaux, avec des amis, on veut rigoler. Et ça, c'est pas rigoler, en fait. D'être tout seul devant un spectacle et ne pas profiter comme on le voudrait. Nous, on ne le vit pas comme eux, mais je pense que c'est quelque chose qui fait vraiment mal. Bon, le but, c'est qu'on se mélange, qu'on ne crée pas des exclusions. Le but, c'est que tout le monde se sente à sa place, que chacun de nous trouve sa place au milieu, qu'il n'y ait pas un côté des handicapés, un côté des personnes en forme, que tout le monde en se mélange et que on vive ensemble, en fait. C'est ça.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, votre thème de réflexion ?
Notre thème, c'est la biodiversité et le tissu vivant de notre planète.
Et donc, il y a un axe très précis. Vous avez des choses très concrètes sur lesquelles travailler ?
Oui, en gros, on doit répertorier les espèces et prévenir des épidémies grâce aux moustiques en particulier.
Voilà, donc on pense souvent aux moustiques comme des êtres nuisibles. Est-ce qu'ils peuvent être aussi des êtres ressources ?
Nous, ce qu'on veut faire, c'est récupérer le moustique pour pouvoir faire une analyse de sang. Donc comme ça, on pourra à la fois analyser l'ADN qu'il a récupéré dans le sang qu'il a piqué du coup d'un autre animal pour pouvoir déterminer si c'est une nouvelle espèce ou pas, pour répertorier des espèces. Et après, on va également essayer de trouver s'il n'y a pas des anticorps ou même un virus qui se trouverait directement dans le sang pour pouvoir avoir un contrôle sur les épidémies et essayer de les prévenir. Et donc, pour prévenir les épidémies, on a aussi une méthode où on injecterait directement un virus dans le moustique. Et ce virus, il empêcherait le moustique de transmettre un virus qui, lui, par contre, infecte les humains. Et du coup, pareil, ça pourrait prévenir des épidémies.
Voilà, je vois écrit là « immunité collective ». Ça veut dire quoi, immunité collective ?
On aimerait en fait faire un vaccin avec les moustiques pour que quand le moustique y pique, il y ait un vaccin qui se mette sur les gens. Mais du coup, on se pose des questions sur tout ce qui est... on se pose des questions sur est-ce que c'est possible parce qu'on devrait avoir l'accord des gens pour fournir le vaccin.
Quand on fait des lois en France ou ailleurs en disant vous devez vous faire vacciner, ne serait-ce que pour aller à l'école, etc., c'est une part de liberté en moins ou c'est de la liberté en plus ?
C'est de la liberté en plus. Parce que c'est pour notre bien, c'est au moins on tombe pas malade. au moins on ne transmet pas aux autres notre maladie. Et
dans certains cas, même la maladie s'arrête au bout d'un moment.
Bah oui.
Voilà, ça peut être utile.
Oui.
Merci. Donc votre réflexion, est-ce qu'elle est déjà en recherche dans des labos universitaires par exemple ? Ou est-ce que ce sont des propositions que vous allez faire ?
La méthode avec le virus qui est inoffensif du coup pour l'homme, qu'on injecte dans le moustique, ça existe déjà, c'est déjà été utilisé. Et l'analyse de sang, non, ça n'a pas encore été mis en place.
On est à une période où on s'interroge beaucoup sur les transmissions de virus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire efficacement pour faciliter un peu les choses, coordonner peut-être aussi les connaissances et les recherches ?
Moi, je pense qu'à ce niveau, il faut une action concertée des différents pays. Parce que déjà, on parlait du coronavirus au niveau de la Chine et tout, mais actuellement, on en parle aussi au niveau de l'Afrique. Du coup, il y a nécessité de coordonner les actions de recherche, mais aussi des financements, afin de pouvoir justement parer à cette épidémie.
Donc ce sont des sujets qui paraissent peut-être plus importants qu'avant. Là, ce problème actuel du coronavirus a mis en évidence des défauts du système, on va dire, c'est-à-dire du système immunitaire mondial.
Absolument, absolument. Et de l'autre côté aussi, on voit les limites de la mondialisation. Parce que voilà, la mondialisation, déjà, c'est voilà, un couteau à double tranchant. D'un côté, ça arrange, de l'autre côté, ça dérange. Et ce côté, vraiment, ça dérange parce que là, que ce soit la maladie, les trafics, ça se propage à une vitesse incroyable. Du coup, voilà, il y a nécessité de quand même repenser la mondialisation et de revoir un petit peu ces modalités de fonctionnement, parce que avec ce coronavirus, on voit que certains pays ont beaucoup plus de moyens de se protéger de ce virus que d'autres. Par exemple, dans les pays africains, le système sanitaire n'est pas assez développé, et du coup, avec ces cas qui sont détectés dans certains pays, on peut dire que ça risque de se développer très rapidement en Afrique. Oui.
Est-ce qu'on peut concilier davantage de surveillance et préserver des libertés?
Oui, et je pense que là, ça relève un petit peu de la question d'éthique. Oui, effectivement, il y a moyen de consolider la surveillance, mais aussi préserver les libertés en veillant à la bonne exploitation des données, par exemple, recueillies à propos des épidémies et tout. Oui, effectivement, il y a moyen. Oui.
Voilà, optimiste
Je dirais plutôt réaliste. Oui, je suis plutôt réaliste.
Merci.
Je vous en prie.
Votre atelier se penche sur quelle problématique?
Le sport et les objets connectés.
Voilà, donc les objets connectés, il y en a de plus en plus. Dans les objets que vous avez, que vous utilisez, quels sont les objets que vous imaginez connectés?
Par exemple, les montres, les chaussures, et même si on parle vraiment du sport, par exemple, le tennis serait du coup la raquette ou la balle, etc.
Voilà, et votre téléphone, il est connecté ou pas?
Oui. Oui.
Est-ce que vous imaginez votre téléphone comme étant le central de tout ça?
En effet, les objets, ils seraient connectés à mon téléphone qui aurait une application qui regrouperait toutes les données. Donc le téléphone, ce serait un peu le centre de tout ça.
Donc voilà une idée qui émerge.
Nous, ce qu'on va faire, c'est sur les tatouages électroniques, donc situés sur l'avant-bras, on va utiliser pour la batterie une nanopuce et qui va amener avec la chaleur et le flux sanguin faire fonctionner le patch. Donc avec le patch, on va pouvoir recueillir les données concernant tout ce qui est la nutrition, donc pour savoir ce qu'il faut qu'on mange, après les efforts physiques. Ensuite, on va avoir quelque chose qui va être respectueux et éthique envers l'environnement. Donc, avec une encre qui est respectueuse, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'encre des tatouages, elle est plutôt cancérigène et non respectueuse de la biodiversité et de l'environnement. Et notre technologie, elle va aussi, à force de l'utilisation, savoir quels sont les meilleurs moments pour effectuer du sport, si c'est avant le boulot, après, la nuit, le matin, avant ou après manger, et avec les données recueillies sur ce qu'on doit manger après le sport, selon si on manque de protéines, de glucides, etc. Nous fixer un régime clair et précis et adapté à chaque individu et utilisateur. Et enfin, en partenariat avec Enedis, selon la zone géographique, si par exemple un utilisateur est au Japon, ça va calculer le taux de radiation, savoir si c'est bon de faire du sport ou non, et la pollution également, pour savoir si par exemple faire du sport pendant un pic de pollution, on va inspirer plus, ça va être plus dangereux pour notre santé, du coup ça va être déconseillé, ça va être affiché, et également un système d'alerte pour la prise de médicaments.
Voilà, donc on est sur des idées d'avantages là. Est-ce qu'il y a des inconvénients à ces systèmes en termes d'éthique ?
En termes d'éthique, le seul inconvénient, ça va être plutôt être l'insertion de la nanopuce qui va peut-être être visible sur la paume de la main ou l'avant-bras. Juste ça. Et sinon, il faut bien fournir de l'énergie pour faire fonctionner l'outil, mais il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Donc,
Est-ce que ça quand même pour effet dénaturer la nature humaine ?
C'est ce qu'on s'est posé comme question, mais on en revient au fait que ça va pas. On garde l'aspect souffrance du sport, on essaie de le diminuer afin de faciliter la vie. Enfin, de nos jours, c'est ce qu'on recherche à faire, améliorer notre qualité de vie. Et ça peut vraiment permettre de sauver des vies ou d'être vraiment en adéquation avec ce que notre corps y demande. Parce que souvent, on ne se rend pas compte que la nutrition, c'est quelque chose qui est plutôt difficile. Donc ça va vraiment nous faciliter cet aspect sur la nutrition, sur les efforts physiques et ce que notre corps a besoin.
À quoi ça sert de toujours prolonger, on va dire, le corps en lui donnant des artifices pour aller plus loin ? À quoi ça sert d'aller plus loin ?
En soi, c'est juste un respect pour mieux se sentir. Ça va en aucun cas prolonger notre durée de vie, mais ça va améliorer la durée de vie où on fait du sport. Parce que y a bien un moment de notre vie où on va plus pouvoir faire du sport. Mais le but ici, c'est d'améliorer cette expérience de sport et de la rendre un peu plus globale. Parce que on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne font plus de sport pour X ou Y raisons, parfois des problèmes de santé. Ici, le but, c'est de prévoir, de prédire et d'éviter les situations où on va avoir des problèmes de santé et de motiver à faire du sport.
Ça sert à quoi le sport ?
Le sport, ça sert à avoir une bonne santé, être en forme le matin, pouvoir bien se réveiller, avoir un bon sommeil et puis avoir de la résistance pendant les journées de travail. Et puis c'est souvent aussi une question de bien-être et de paix avec soi-même.
Vous pratiquez vous-même le sport ?
J'en pratique, c'est vrai, mais j'aimerais bien avoir un truc comme ça qui facilite vraiment. Sur l'aspect nutritionnel, j'y connais absolument rien et j'aurais bien aimé avoir un assistant sur ça. Voilà.
Merci.
Pas de problème.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà donc une table de réflexion, on va appeler ça comme ça.
Oui.
Comment vous vous organisez ?
Donc on a débuté par lister des idées sur le thème qui nous a été donné, qui est le sport, et les innovations pour le sport et les performances. Donc on a écrit nos idées sur des petites fiches qu'on a collées sur des tableaux. Puis, dans un second temps, on les a réunis en blocs de thèmes et on s'est retrouvé avec les thèmes de données sur le sport, de la santé, des objectifs et du textile, voilà, des vêtements. Et après, quand on a réuni ces trois blocs, on est passé dans une troisième partie pour, entre autres, apporter une innovation technique regroupant ces quatre thèmes. Et là, on est en train de réfléchir sur les derniers aspects de cette innovation pour qu'il soit écologique, pas cher, réalisable et éthique, éthiquement bien. Voilà.
Donc je vois apparaître améliorer les performances en sport. À quoi ça sert d'améliorer les performances en sport ?
Premièrement, améliorer les performances, c'est au niveau leur vitesse, leur capacité et aussi voir les autres sportifs et atteindre des objectifs chaque fois. Fixer des objectifs et les atteindre.
Donc dans cette amélioration possible, je vois que vous pensez utiliser des capteurs, c'est ça ?
Oui, c'est ça, ouais. Oui, on peut utiliser des capteurs qui prend toutes les données nécessaires. Comme j'ai dit, notre rythme mesure le rythme cardiaque, la respiration, Et ils nous donnent des informations sur l'alimentation, en fait. Et aussi, ils nous donnent des informations sur vitesse, le nombre de pas qu'on a fait. Ils peuvent mettre aussi en relation le sportif et le coach.
Est-ce que vous imaginez le sport vers toujours plus de performances et est-ce que ça vous intéresse, vous, personnellement, d'améliorer vos performances sportives ?
Oui, perso, ça m'intéresse. En fait, vu avec toutes les maladies qui se passent aujourd'hui, de nos jours, ben, il est nécessaire qu'on améliore notre performance. Et parfois, s'il n'y a pas toujours quelqu'un derrière nous qui nous pousse à faire le sport, on ne le fait pas. En fait, si on a ces technologies, elles vont nous permettre de mieux améliorer et d'atteindre des objectifs intéressants. Et c'est tout, à mon avis. Ouais.
Très bien, merci. Donc, toutes ces données connectées, enfin, tous ces appareils connectés pour plus de données et la transmission des données, est-ce que ça peut faire éventuellement peur en termes de data et qui peut les utiliser, les exploiter ?
Eh bien, oui, je pense que ça peut faire peur. Après, ça dépend, je dirais, des personnes. Mais il faut savoir que généralement, tout ce qui est nouveau, en général, ça fait peur. Et avec le temps, je pense que les gens, ils s'habituent. Au final, ils s'habituent.
Voilà, donc ces appareils connectés, les données termineraient dans quel pays ?
Bah, ça dépend, je dirais, des entreprises qui collectent ces données, je dirais.
Et elles pourraient en faire quoi ? C'est quoi les limites ?
Exploiter les données afin de améliorer les performances sportives et les partager au monde. Quand on récolte des données, ça permet de les analyser. Et à travers ces analyses, eh ben, on peut tirer des conclusions. Et par exemple, pour améliorer les performances sportives, eh ben, ça permet de concurrencer les uns des autres et donc de se dépasser au fur et à mesure.
C'est ça à quoi de concurrencer les autres ?
Bah, de se dépasser sur un plan personnel, de toujours vouloir être meilleur, la meilleure version de soi-même.
Et est-ce que c'est dépasser les autres ou c'est que tout le monde évolue positivement ?
L'idée.
Ça dépend de chacun, je dirais. Mais disons que d'une façon globale, c'est si tout le monde se dépasse collectivement, et ben individuellement, chacun se dépasse. Oui, quoi. Voilà.
Donc quand on dit l'homme augmenté, c'est un peu l'idée aussi, là ?
Oui, c'est ça, c'est vrai. Oui.
Donc. Quand on est jeune et dynamique, ça inspire. On a envie de participer à des aventures de ce type-là ou bien on a un peu peur, on a des réserves et on les formule.
Non, je pense que même ceux qui sont réservés, eh ben, quand ils voient les autres se dépasser, eh ben, eux-mêmes se motivent et s'aventurent vers l'inconnu, même si au final, ils ont peur.
C'est inéluctable quelque part ? C'est le sens du progrès ?
Oui, je pense que ça, c'est l'idée d'une société future, l'humain connecté.
Beaucoup de gens, hein, même des jeunes, hein, ont conscience actuellement des besoins de la planète, etc. Est-ce que ça va dans le sens de la planète ou ça contrecarre plutôt la nature d'une manière générale ? Est-ce qu'on respecte encore la nature ou sa nature en augmentant toujours les choses pour notre corps, etc.
Alors déjà, oui, ça respecte la nature car on cherche des solutions écologiques et naturelles. Et est-ce que ça respecte nos natures ? Oui, d'ailleurs, on a des experts ici qui travaillent justement sur cette question d'éthique et qui sauraient vous en dire plus sur le sujet.
Donc est-ce que vous, dans ce groupe, vous avez envie de poser des questions à des experts en éthique ? Est-ce que justement, avec votre réflexion-là, ça vous y donne l'idée de vous poser vraiment des questions éthiques ?
Oui, car je trouve que c'est intéressant parce que quelque part c'est changer l'homme et certains diraient changer la nature de l'homme, donc oui.
Voilà, donc dans cet atelier on a déjà beaucoup réfléchi et on a à la fois des questions et des réponses.
Oui, bah, concernant l'éthique, bah, on a résolu tous les problèmes. Donc, premièrement, d'un point de vue écologique et développement durable, ça ne va pas de causer de tort à la planète. Ce seront des batteries amovibles, donc qui seront recyclées. Et d'autre part, concernant l'être humain, il ne va pas intégrer de substances ou d'autres technologies qui vont améliorer sa performance. Ce sera vraiment... Il y a vraiment toutes les questions éthiques sont résolues et ça ne pose pas de problème pour l'instant. Là, il n'y a pas de problème.
Bonjour, je suis Jean Cosléou, je suis directeur scientifique d'Experium.
Voilà, donc aujourd'hui, c'est une journée de réflexion et de propositions.
Exactement, on a réuni 10 équipes formées de lycéens et d'étudiants et ils sont en charge de travailler sur un projet complètement innovant sur lequel ils ne s'attendaient pas du tout à travailler, mais voilà, ils se sentent bien mis dedans.
Donc beaucoup de prospectives aujourd'hui et des propositions qui vont fuser, j'espère.
Ah bon, on l'espère aussi. Hein. En fait, il y a deux types de questions. Il y a une question que nous, on a appelée pragmatique, hein, une réponse un peu dans l'actualité du moment, pour quelle réponse immédiate avec ce qu'on sait des technologies, etc., pour pouvoir apporter cette réponse. Et puis, on se projette aussi à 20-30 ans et voir un petit peu quelle pourrait être la situation que pourraient devenir certains sujets, hein, qui ont été proposés par nos experts.
Donc ces jeunes, c'est aussi un vrai laboratoire.
Ah ben j'espère que ça nous donnera des idées aussi. Hein. Je sais qu'il y a certains collègues qui attendent ça avec impatience.
Alors ils ont à la fois des besoins et puis des bornages aussi en termes d'éthique.
Ça c'est un petit plus qui nous a été proposé par le lycée Mariette, qui a un label pour justement travailler sur tout ce qui est bioéthique. Et donc depuis l'année dernière déjà, il y a une dizaine d'élèves de ce lycée qui suit une formation sur le sujet et qui vient accompagner nos groupes en fait en leur donnant un petit peu de hauteur par rapport à cette dimension éthique, par rapport au sujet purement technologique par exemple qui leur a été soumis.
Donc au-delà des besoins de la société par rapport aux idées qu'ils expriment là, la nécessité de prendre en compte leur voix et leurs besoins, hein, est-ce qu'eux-mêmes peuvent imaginer des carrières scientifiques à partir de leurs réflexions d'aujourd'hui ?
Bah, c'est l'espoir que nous avons, tout simplement. On les met dans la démarche scientifique, on les met dans la réflexion. Ce que nous, en tant que chercheurs, on essaie de faire au quotidien. Bah, eux, en une journée, on essaie de les mettre dans ces conditions et de se rendre compte un petit peu de la difficulté et de l'enthousiasme que l'on peut avoir en traitant un sujet comme ceci.
Alors, au-delà de l'enthousiasme du sujet, est-ce que la recherche, c'est un bon plan pour un avenir professionnel ?
Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Je crois que c'est surtout une question de passion. C'est une question d'intérêt par rapport à une discipline, par rapport à un sujet que l'on veut porter, que l'on veut prendre pour soi. Après, voilà, c'est la chance, c'est le projet, mais il faut se mettre dans les conditions. Et déjà, je pense qu'en apprenant un petit peu, en vivant un petit peu cette expérience, déjà, ils peuvent se rendre compte, un petit peu, il ne faut pas exagérer non plus, mais ils peuvent se rendre compte un petit peu de cette démarche que nous avons et que, bah, du coup, en la connaissant avant, peut-être que ils pourront s'orienter vers cette démarche, vers ce métier.
Voilà, donc prendre leur place dans le dispositif scientifique et aussi dans la société.
Exactement, parce que les problématiques sont vraiment des problématiques sociétales. Et le chercheur, il est là aussi pour répondre aux besoins de la société, aux nécessités.
Merci.
Merci à vous.
Voilà, c'était donc une petite restitution de l'ambiance de travail et de compétition lors du Challenge Experium 2020 qui a eu lieu le 12 mars à l'Iliade, cité scientifique de l'Université de Lille. Pour découvrir les présentations faites par les équipes devant le jury, vous pouvez accéder à la vidéo en cherchant sur votre moteur de recherche Palmarès Challenge Experium 2020. C'était un reportage de René Lavergne de Radio Campus Lille.